Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, troisième épisode de la session Season 1, où j'ai toujours le plaisir d'accueillir Sophie et Alexandre pour 3 trucs cool en 20 minutes ou 30 minutes. Je suis Patrick Béja, votre animateur. J'hésite toujours à dire votre animateur préféré parce que c'est très présomptueux comme, comme présentation.
Surtout avec Sophie qui est là.
Bah, c'est vrai que Sophie... Enfin, à vrai dire, Alexandre a tout de même, tu vois, pour certains, dont peut-être moi, ma préférence. Je dis ça, je dis rien.
Ah. Bah non, pour mieux dire rien, tu vas causer un divorce.
Ça va aller.
Ça fait 6 ans qu'on tient le coup, alors.
Bon, j'essaye de semer la zizanie dans le couple, en
c'est
fait.
Ça, c'est ça. Mais on est solide, on dans fêtera nos noces d'or, vous verrez.
C'est ça. Bon, bah merci à vous deux.
Elle a résisté à tout concernant, même au chant de la dernière fois avec toi, Patrick, donc je crois que.
Ouais, elle est revenue, donc je crois que le trio est solide là.
C'est ça.
Bon, bah, merci à vous d'être de retour, toujours pour 3 trucs cool qu'on va vous présenter. Et je vais commencer avec de la musique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de musique. On en avait parlé dans la session précédente. Marion, vous avez parlé de Saint Vincent. Voilà. Il y a 2 ou 3 épisodes. Et moi, j'ai un truc que je vais vous proposer qui date pas d'hier, que certains d'entre vous penseront connaître, mais que, en fait, vous ne connaissez pas forcément. Alors, petit, tu vois, mystère, petite...
Il est bon en teasing,
ouais,
aussi.
Voilà,
hein.
C'est ça. Teasing, exactement. Et donc, je vais vous parler de Sneaker Pimps. Alors, les gens qui connaissent un petit peu la musique des années 90 se disent « Mais Sneaker Pimps, évidemment que je connais !» Et vous pensez tout de suite à Becoming X, qui était le
album
en question. Mais vous ne connaissez pas Sneaker Pimps, mais vous êtes trop jeune, vous. C'est pour ça. Mais
bah, par contre, je ne sais pas le dire.
C'est ça.
Oui,
c'est
je
ça,
pense.
Ça.
Non, mais par contre, je vais vous faire écouter ceci et tout de suite, ça va vous dire quelque chose. Ça vous dit rien, ça ?
On n'entend pas.
Ah, vous entendez pas, Damned ? Ah oui, alors en fait, pardon, c'est ça qu'il faut faire. Et là, vous entendez.
On a dû l'entendre dans une série.
Dans Charmed.
Mais
ça ressemble
ça, franchement,
au Quake.
Vous connaissez pas ?
Si.
Non.
Ah. Non, mais parce que c'était vraiment hyper connu à l'époque. Hein, c'est sorti en 96, 97. C'était un petit
ça
peu dans
le même sens.
Bah, c'est un petit peu la même époque, quoi. Et on en parlait donc effectivement dans les mêmes conversations que tout ce qui était trip-hop, musique électronique, ce genre de choses. Et bon, bref, je vais arrêter ce morceau parce qu'en fait, c'est pas de ça que je veux vous parler. C'est pas de Sneaker Pimps, premier album dont je veux vous parler. C'est des albums suivants. Et en particulier de l'album Bloodsport, qui sont beaucoup moins connus, parce que, entre autres, la chanteuse principale, qui était donc la voix de Sneaker Pimps, qui s'appelle Kelly Dayton, a quitté le groupe, ou s'est fait gentiment sortir du groupe, qui avait été fondé par deux autres chanteurs, et, enfin, pardon, deux autres membres du groupe, et dans les albums suivants, en fait, c'est Chris Corner qui reprend les voix. Donc, le groupe change complètement de tonalité, de style, de pas forcément d'ambiance, mais il change pas mal. Et le premier album, l'album que je vous conseillerais parmi les albums suivants, c'est Bloodsport, qui est un album... Bah, je vais vous faire écouter un petit peu. C'est le même style, mais la voix est évidemment très différente. Alors, hop... Toujours un petit peu électronique, mais... Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. En fait, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Enfin, quelques années, mais... Ah, ça me donne envie de chanter encore. Ça c'est donc voilà, ça c'est un morceau qui s'appelle Kiro TV, qui représente bien l'ambiance du truc. C'est toujours pas super joyeux, c'est un petit peu... on sent la souffrance hein, quand même du chanteur. Il y en a un autre, tiens, un autre morceau que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Bloodsport, et qui parle, qui dit en fait...
Non.
Bah, presque, non. En fait, c'est « Love is a blood sport ». Et bon, donc voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà le morceau. Je vais passer l'intro, parce qu'on va pas passer toute la journée dessus. Bon, il n'arrête pas de parler de sa mère, là, mais c'est... Bon, un autre morceau, et puis je vais finir. Ça s'appelle Black Sheep. Encore une fois, c'est assez calme, assez... c'est vraiment une ambiance qui vous enveloppe et qui vous attire dans les tréfonds de son âme torturée, en fait. Enfin, de leur âme torturée. Black Sheep. Je me demande si c'est pas un groupe que les goths aimeraient bien quand même.
Ouais, c'est un peu torturé quoi.
Ouais.
Et les deux premières étaient plus dansantes quand même.
Oui, oui, non mais il y a un peu de tout. Oui. Donc il y a en fait ces rythmes de trip-hop qui ont des beats quand même, des batteries assez présentes, mais en même temps c'est relativement lent quand même. Bon allez, un petit dernier. Vous m'entendez pas, mais en fait, je chante en silence devant mon micro.
Bah, c'est bien.
Moi, j'ai pas de webcam.
Voilà. Oui, c'est un peu dommage. Voilà, donc...
Le titre d'avant m'a fait penser à un autre groupe. Je crois que c'est un groupe qui vient des pays nordiques qui s'appelle The Rasmus.
D'accord.
Et qui en France a surtout été popularisé parce que c'est l'un de leurs titres qui s'appelle, je crois, In the Shadow, a été utilisé pour faire le générique du talk de Ruquier le samedi soir. On n'est pas
ah
couché.
Oui. Ah.
Et
tout,
c'est une musique comme ça.
Tout passe par la télé, oui.
Ouais, mais c'est une chanson qui. Et pour avoir écouté d'autres titres de leur album, le titre que tu as passé juste avant faisait un peu penser à cette ambiance un peu, effectivement, électro, un peu gothique par moment aussi, et ouais. Qui n'est pas désagréable à entendre.
Mmh. Ouais, effectivement, c'est un style qui est plus aussi présent aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, mais que moi j'aime bien. Et comme je le disais, Bloodsport, je l'ai découvert très longtemps après avoir après que Becoming X, le premier album, ait été popularisé dans le monde, partout. Moi je l'ai découvert peut-être en 2006-2007, il est sorti en 2002. Et franchement, il est pas mal. C'est pour les fans de ce style de musique, mais si vous êtes fan, je pense que ça vous plaira vraiment. Donc voilà, ça s'appelle Bloodsport et le groupe, c'est Sneaker Pimps.
Et pour info, Sneaker Pimps font partie de la... Peut-être que Sophie l'a entendu là, ça fait partie de la BO de la série Queer as Folk.
Ah, ben voilà, c'est bien dans l'époque en plus.
Pas là que j'ai entendu, mais...
Bon. Voilà.
Mais ouais, d'accord. J'aime bien.
Il y a toujours un rapport avec les séries.
Est-ce que c'est disponible sur Spotify?
Sneaker Pimps, je sais pas. Moi, je l'ai acheté il y a longtemps sur iTunes. Je saurais pas te dire.
Moi, je regardais ça. Tu vois, à la fin d'accord. De l'émission, je vais aller écouter sur Spotify. Okay.
Très bien. Bon, et avant ça, donne-nous quand même ta recommandation pour aujourd'hui, Sophie.
Oui, alors j'ai choisi une série et attention, c'est une grande, grande série. C'est une série formidable qui s'appelle Orange is the New Black. C'est une série qui est de Netflix et qui est donc dispo sur Netflix en France. Ça fait déjà 2 saisons et cette année on va avoir la 3e, donc c'est pas tout neuf, certainement vous avez déjà dû entendre parler de la série. Donc c'est une série qui est basée sur une histoire vraie et donc ça se passe en prison, dans une prison pour femmes, c'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler. Donc l'histoire, c'est l'héroïne s'appelle Piper, c'est une jeune femme, on va dire à la base tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'en fait elle se retrouve un petit peu embringuée malgré elle dans une histoire de trafic de drogue et elle se fait arrêter. Et donc là elle est condamnée à passer 1 an et demi en prison et donc on suit son parcours à l'intérieur de cette prison qu'on découvre en fait à travers ses yeux. Et c'est vraiment le choc, quoi. C'est le choc des cultures, parce que bon, bah elle, c'est un peu une oie blanche. Elle n'a jamais rien vu. Une femme sans qui n'a jamais eu aucun problème.
Ouais, elle n'a jamais été en prison.
Elle fréquente pas des gangsters, des rien. Donc, puis elle est plutôt de la haute société. Enfin, elle n'est pas non plus bourgeoise, mais bon, elle est. Voilà.
Oh, c'est une bonne classe moyenne supérieure.
Voilà.
Je sais plus.
Disons
où, New York,
le genre de personne qu'on
ça,
s'imagine mais... pas être en prison. On va dire ouais. Ça comme ça. Et quand elle arrive, là pour le coup, c'est. Bon, elle se retrouve un peu dans. Ben, déjà, ne serait-ce que dans ce magnifique uniforme donc orange. Et affectée dans des quartiers, les différents secteurs de la prison. Et là, elle se rend compte que c'est absolument la guerre. Même si c'est une prison pour femmes, c'est aussi c'est différent de prison d'hommes. Mais disons que c'est aussi la guerre dans le sens où il y a une guerre de clans, il y a une guerre de... les prisonnières ne se mélangent pas. Il y a vraiment des groupes hyper, hyper définis. Et elle va essayer de survivre au départ, puis finalement de s'intégrer à ces groupes de femmes-là et à essayer de tirer sa peine le plus vite possible. Le seul problème, c'est qu'en fait, là, je suis obligée un petit peu de dévoiler un bout de l'intrigue.
Ouais, essaye de dévoiler aussi peu que possible.
C'est
hein,
qu'elle apprend qu'elle a une de ses connaissances en prison et ça va pas très très bien se passer. Voilà.
Ouais.
Ça comme ça.
Très
c'est
bien,
bien
très
comme
bien.
Ça.
Oui, non, ça va.
Ça te va. Donc voilà, franchement c'est une série que j'ai adorée tout de suite, dès le pilote. D'ailleurs le générique est absolument formidable, aussi bien visuellement que sur la musique. J'ai oublié le nom de la chanteuse, le titre c'est You've Got Time, je sais plus, bref, et elle est vraiment géniale. Et je trouve que l'univers de la prison qu'on ne connaît pas forcément est hyper bien décrit. Et cette série, elle est assez inclassable parce qu'on dirait plutôt que c'est une dramédie. Parce que bon, c'est surtout dramatique, mais il y a quand même des moments assez de comédie, des moments assez légers, parce qu'il y a certaines prisonnières qui sont un peu l'élément comique de la série. Donc, ils sont
moyennes qui est un peu... C'est vrai que quand on t'entend décrire la série, enfin quand on décrit la série, on a un peu l'impression que ça va être un Oz au féminin.
Ouais, non, c'est pas Oz.
Non.
Et pas du tout, parce que Oz, c'est le truc le plus déprimant de la Terre. Et là, c'est pas du tout ça. Enfin, même la prison, oui, c'est un petit peu... Bah, c'est une prison, quoi, c'est pas marrant, mais c'est pas non plus isolement maximum, méga sécurité.
Non, c'est pas Oz City, c'est clair.
C'est pas le même type de criminel non plus.
Du tout, bien sûr, oui, c'est ça.
Ouais, non, là, c'est plus pour des... En fait, c'est souvent des femmes qui sont en prison à cause des hommes, d'ailleurs. Enfin, c'est des copines de gangsters ou des femmes qui ont fait un petit peu de trafic. Mais bon, c'est pas des meurtrières non plus. C'est vrai que c'est un peu plus détendu, si on peut dire ça comme ça, mais...
Ouais, non, c'est vrai.
Et du coup, les prisonnières peuvent circuler... plus facilement, hein. Ils ne sont pas en cage en fait. Elles circulent, elles ont des choses obligatoires à faire, il y a des tâches, il y a des, on leur donne des travaux à faire dans la prison, mais par contre, elles sont assez libres dans le sens où elles peuvent quand même circuler.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que la série est hyper difficile à classer parce que c'est pas un drame, c'est pas une comédie, c'est un peu tout en même temps, quoi.
C'est ce que les Américains affectionnent et qu'ils appellent le dramédie. Et voilà, dans laquelle on peut mettre des séries comme Nurse Jackie ou des choses comme ça. Et voilà, c'est un. Et en France, on a des exemples qui commencent à émerger. On pense à Capul Kitchen, des choses Donc c'est effectivement un espèce de genre
excuse-moi,
un peu hybride.
T'as un peu coupé, tu parlais de quelle série?
En France, il y a Kaboul Kitchen par exemple, avec Melky et Abkarian sur Canal+, qui s'inscrit dans cette tradition aussi de séries un peu hybrides, qui en général d'ailleurs aux Emmy, quand ils sont récompensés, se retrouvent dans la catégorie comédie de manière assez étonnante.
Oui, d'ailleurs, la série a gagné. Alors, c'est pas un Emmy, c'est un Critics' Choice Award. Les critiques ont décerné en 2014. C'est la série a eu la meilleure série comique. Donc, oui, ils sont toujours un peu.
Oui. Je sais pas, moi j'ai regardé la série, j'ai dû regarder la moitié de la première saison. Elle est disponible sur Netflix hein, pour ceux qui l'ont. J'étais un petit peu déçu, j'avoue. Enfin, pas déçu, mais c'est une série qui est pas mal, qui était sympathique à regarder, mais j'avais pas une envie violente de regarder la suite, en fait. Il y a quelques séries comme ça, où tu regardes, tu dis « Ouais, bon, je vais passer un bon moment », mais c'est pas que ça me donne envie absolument de savoir ce qui se passe, ou... je sais pas. Mais elle est pas mal, mais moi, ça m'a pas complètement conquis, quoi.
Ah ben, moi, ça m'a fait le... C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que, justement, je l'ai regardé super vite, ouais. C'est rare que je regarde plusieurs épisodes de la suite, et moi, cette série, elle est... Enfin, je suis dedans à fond, je suis dans l'univers à fond, j'adhère totalement. Alors effectivement, la saison a quelques faiblesses. Il y a des choses dans la vie personnelle de Piper qui étaient un peu agaçantes. Mais tout ce qui se passe dans la prison, les histoires entre les clans de prisonnières, moi j'ai trouvé ça génialissime. Dans la saison 2, il y a une guerre des cuisinières, c'est juste magnifique.
On m'a dit que la saison 2 était beaucoup mieux, qu'elle était encore mieux.
Exactement. Et dans la saison 2, tu t'impliques tellement avec les personnages que tu veux vraiment savoir ce qui arrive à la fin. Et je peux te dire qu'en juin, quand la saison 3 va débarquer, je serai présente parce que pour moi, c'est une des séries, elle va être presque dans le top 10. Vraiment,
ah, carrément.
Carrément.
Et c'est dès la saison 1 ou c'est carrément avec la saison 2 que ça...
C'est un ensemble, parce que la saison 2, j'ai trouvé encore mieux. Donc, c'est d'accord. Plus l'ensemble de la série.
Bon, bah écoute, tu me donnes un petit peu envie de réessayer. Et t'es pas la première à me dire que la saison 2 est encore mieux. Donc, peut-être,
non,
peut-être
que les seconds rôles sont extraordinaires.
C'est vrai qu'il y a très peu de choses qu'on peut lui reprocher et les acteurs sont en tout cas une des grandes forces, quoi, ça c'est sûr. Donc, ok, bon, écoute, on verra. Peut-être que je m'y replongerai. Merci bien, Sophie. Et donc, tu la recommandes à tout le monde ou aux gens qui sont fans de Dramedy ou de...
Ben, moi, je dirais plutôt à tout le monde parce que
c'est très accessible, oui.
Je connais beaucoup de personnes différentes qui ont aimé et regardé et aimé, donc... Je pense que pour tout le monde.
Ok, super. Eh bien, écoute, merci Sophie. Ça s'appelle donc Orange is the New Black. On enchaîne avec Alexandre pour une autre recommandation.
Oui, moi, je vais vous parler d'un polar. Alors, si vous aimez les polars, vous allez être servi. C'est un bouquin qui est sorti il y a déjà à peu près 2 ans. Et je pourrais même le qualifier peut-être de livre méta. Celles et ceux qui connaissent des séries ou des films qui auto-référencés, qui font appel à la culture populaire, auront un peu cette sensation en lisant ce livre. Alors, c'est pas un livre méta sur la culture populaire, mais c'est un livre méta sur la façon de construire un roman. Le polar s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est signé par un jeune auteur français qui s'appelle Joël Dicker et qui a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française quand le roman est sorti. Il a failli avoir le prix Goncourt aussi. Et c'est un roman en fait que j'ai dévoré l'année dernière en faisant le trajet pour aller au festival de Monte-Carlo. J'ai fait le trajet en train et j'ai lu le bouquin pendant tout le trajet. Je l'ai dévoré. Je pouvais pas arriver à me décoller de ce livre. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est celle d'un jeune homme. On est à peu près en 2008 aux États-Unis. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Marcus Goldman, qui est un jeune auteur qui vient de construire et qui vient de sortir un roman qui a été un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, un roman un peu très efficace mais qui n'est pas forcément celui qu'il voudrait faire. Et puis le problème quand on a fait un gros roman, c'est qu'il faut en sortir un deuxième derrière qui va être aussi réussi. Et c'est vrai que là il se retrouve un peu face à la page blanche et donc il décide de se ressourcer et d'aller retrouver celui qui l'a inspiré, son prof à l'université, qui s'appelle Harry Kéber, qui avait lui aussi sorti un grand best-seller qui s'appelle Les origines du mal. Et c'est le succès de ce livre qui lui a permis de s'installer dans cette petite ville qui s'appelle Aurora, une petite ville, je crois, du New Hampshire, dans laquelle il va s'installer dans une grande maison. Sauf que quasiment au moment où Marcus arrive sur place, son vieux professeur est arrêté. Parce que dans la propriété de son professeur, on retrouve le corps d'une jeune fille qui s'appelle Nola Kerlagan, qui avait disparu depuis quasiment 30 ans. Elle avait 15 ans à l'époque et elle avait disparu. Et on a retrouvé son corps enserré dans le jardin du romancier avec le manuscrit original des origines du mal de cet homme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir innocenter donc son professeur, savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, évidemment, il y a la pression de son éditeur qui va essayer de le convaincre et d'écrire finalement l'enquête pour innocenter son professeur et en faire un roman en parallèle. Et en fait, donc, on va suivre l'enquête avec des rebondissements hallucinants à toutes les pages. Et en fait, ce qui est génial, c'est que chaque chapitre correspond, en fait, il y en a à peu près une vingtaine, je crois, il y a à peu près 20 chapitres. Et chaque chapitre, c'est quasiment un conseil pour faire un roman et pour écrire des choses efficaces dans un roman. Soigner les personnages, ménager les effets de surprise, etc. Et à chaque fois qu'on rentre dans un de ces chapitres, effectivement, le conseil qui est donné, on le retrouve plus ou moins appliqué dans le roman, dans le chapitre en question.
Quand tu dis le conseil qui est donné, tu veux dire que...
Le conseil que donne l'auteur.
Met en toutes lettres, genre au début du chapitre.
C'est le titre du chapitre, on fait ça par exemple. C'est le titre du chapitre et effectivement, lui, il essaye aussi effectivement de l'appliquer dans son chapitre par rapport à l'histoire qu'il raconte. Et comme ça, on remonte donc du 20e conseil jusqu'au premier. Et le premier conseil, à la fin du chapitre, du bouquin, correspond effectivement à la résolution ultime de l'intrigue qui ne ménage pas ses effets de surprise, je peux vous le dire. Parce qu'évidemment, on va plonger alors à une époque où on découvre, et ça c'est pas du tout un spoiler, mais on découvre que ce Harry Kéber qui avait je crois une vingtaine d'années dans les années 70 a eu une liaison avec cette jeune fille Nola Kerlagan qui avait 15 ans, donc il a eu une liaison avec une mineure et effectivement il y a tout ce qui remonte à la surface. Et les secrets de la ville, les secrets des habitants de cette ville, qui avait intérêt à faire disparaître cette jeune fille? Qui était-elle, cette jeune fille? Est-ce qu'elle était aussi innocente que ça? Enfin voilà, on retrouve tout ça qui est mis là-dedans et qui est révélé au fur et à mesure. Et je peux vous dire qu'il y a des très 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 gros rebondissements concernant à la fois l'identité de l'assassin et qui était véritablement Nola Kerlagan. Donc moi, c'est un roman qui m'a pris vraiment parce qu'on est emporté. Alors, il y a effectivement des maladresses par moment parce que on est un peu dans du rebondissement facile par moment, mais honnêtement, moi quand je suis rentré dans ce bouquin, j'ai pas pu m'en déscotcher avant d'être arrivé à ma destination. Alors ça a été terrible parce que le trajet était trop court par rapport au bouquin, donc je me suis retrouvé à avoir, je sais pas, 150 pages à finir une fois sur place. Et que j'ai été obligé de picorer parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps. Mais honnêtement, ça m'a scotché, quoi. Et je sais qu'à l'époque où il est sorti, on en a pas mal parlé. Le type a fait beaucoup de promos, ça a très bien marché. Je crois qu'il a vendu 2012.
D'accord.
Et je sais qu'il a vendu à peu près 1 million d'exemplaires de son bouquin à travers le monde. Donc c'est un bouquin qui a très bien marché. Et je crois même qu'on parle d'une adaptation au cinéma. Donc voilà. Et et on sent le type qui à la fois est un romancier, donc qui écrit, puis en même temps quelqu'un qui est imprégné de la culture effectivement nord-américaine à travers les films, les séries et la littérature. Donc si vous aimez les polars avec des rebondissements, des choses orchestrées et quasiment à tous les chapitres un rebondissement sur l'affaire, je crois que vous ne serez pas déçus par la vérité sur l'affaire Harry Kéber.
D'accord, et écoute, super, ça a l'air très tout à fait passionnant cette histoire. Je te remercie Alexandre. Et ce conseil conclut cet épisode puisqu'on a eu nos trois trucs cool dont j'espère que vous les aurez trouvés cool. Je vous rappelle qu'il s'agissait donc de Bloodsport, un album des Sneaker Pimps, Orange is the New Black, une série télé sur Netflix, et La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Harry. Ah, parce que t'as écrit Henri dans les notes.
Autant pour moi. Harry Kéber.
Harry Kéber. Mais c'est la version française. C'est la version qui se passe dans le Périgord. Ok, d'accord. Donc, c'est un livre pour tout le monde. Merci à tous les deux. On va donc finir l'épisode. Mais avant ça, évidemment, vous nous dites où on peut retrouver encore plus de vos querelles de couple si on en veut plus avant le prochain épisode dans 2 semaines.
Mais c'est un peu ça en fait. Alors, nos querelles de couple, c'est donc sur le site season1.fr avec un 1. Donc, podcast toutes les semaines sur les séries disponibles sur SoundCloud et sur iTunes. Et sur le site aussi, il y a des articles, il y a plein de choses. Il n'y a pas que nous deux qui parlons sans arrêt. En tout cas, c'est du 100% série. C'est bon, mangez-en.
Très bien, c'est bon, mangez-en sur Season 1 avec un 1. Et toi, Alexandre, enfin, je ne sais pas si vous voulez donner vos Twitter ou ce genre de choses.
Bah, moi, mon Twitter, c'est @AlexandreLetraine, tout simplement. Et je vous retrouve aussi sur une radio numérique, notamment qui s'appelle Radio VL, où j'anime la loi des séries chaque mercredi à 21h.
Radio
VL.
VL. C'est quoi tout VL?
C'est une radio qui, autant pour moi, ça s'appelle, je crois, Radio Vraiment Libre, mais il y a pas très, longtemps que je suis dessus, et j'avoue que ça entretient le mystère.
Il y a pas plus de devoir.
Okay,
non, mais même eux, ils laissent entretenir le mystère. En tout cas, c'est une radio à destination d'un jeune public. Voilà.
D'accord. Ok, super. Eh ben, écoute, merci Alexandre, merci Sophie.
Merci à toi.
On se retrouve évidemment dans... Ah non, mais attendez, je dois quand même dire que vous pouvez retrouver les notes de l'émission les notes de l'émission et d'autres émissions sur frenchspin.fr et moi sur Twitter, c'est notepatrick et c'est facile à retenir. Voilà, donc maintenant, je peux dire qu'on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Positron qui sera le dernier de cette session et j'en suis déjà triste.
Ça.
À dans deux semaines. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Dumb, 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 d